Alors, un petit survol rapide là, sur quelques nouvelles. Rien de majeur, bien sûr.
Rien de majeur, sauf que les lendemains de crise pourraient être difficiles pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey. Selon le réseau TSN, l'Association des joueurs demanderait à ses membres de ne pas toucher leur dernier chèque de paye. On placerait ça dans le compte en fiducie, là, l'escrow. Parce qu'on dit que si la saison 2019-2020 est terminée, est annulée, là, qu'on ne reprend pas les activités, l'escrow l'an prochain pourrait être de 35 %. Ça veut dire ça qu'on prend 35 % de la paye des joueurs, on place ça dans un compte en fiducie, et à la fin de l'année, là, selon les revenus que la Ligue aura encaissés, ben, on va en remettre aux joueurs ou piger dans ce fonds-là pour que propriétaires et joueurs aient une part égale de 50-50 des revenus que la Ligue aura généré à la reprise des activités. Sinon, ben, la saison de golf, là, on crée des calendriers, puis on se dit si on peut reprendre, ça donnerait ceci, là, selon la dernière mouture. Le tournoi des maîtres serait présenté durant la semaine du 9 novembre prochain. Il y aurait le British Open, qui n'est pas encore annulé, cependant. Là. Semble-t-il que c'est tout ce qu'on attend avant de dévoiler ce nouveau calendrier. Ben, le British Open aurait lieu au mois de septembre. Si jamais, évidemment, on parvient à reprendre les activités.
Parfait. Ray, on va parler du tennis.
Oui, et puis pour juste finir ce que Alain a dit, là, on pourrait, si une bonne nouvelle nous attend, avoir un mois de septembre assez chargé dans le sport mondial.
Oui.
Que ce soit le tennis, le golf, toutes ces activités-là qui vont reprendre, puis essayer tous de se congestionner à la fin de l'année avec un peu d'espoir, mais ça, je pense qu'on rêve un peu en couleur pour le moment, là. Je veux vous parler de tennis. C'est le deuxième des sports individuels. C'est un sport excessivement populaire au Canada. La Fédération Tennis Canada fait tout un travail. Puis le point tournant de ce travail-là, c'est probablement les deux catalyseurs, Milos Raonic puis Eugénie Bouchard, il y a à peu près 7-8 ans, là, qui ont commencé à connaître du succès sur le plan mondial. Tu sais, c'est une chose de dire qu'on a des joueurs qui sont 100e au monde puis 150e, mais quand des joueurs comme ça atteignent des finales de Grand Chelem, des demi-finales régulièrement. Eugénie Bouchard a connu toute une année en 2014. Puis Milos Raonic continue de bien performer. Ça a donné une injection, un coup de tonnerre là, à l'industrie, puis surtout, ça a servi de modèle aux jeunes. Puis dans toutes les disciplines sportives, là, le tennis aujourd'hui est très affecté. Les jeunes ne peuvent pas jouer, ils ont besoin d'espace. C'est pas quelque chose que tu pratiques à la maison. Puis ça me rappelle encore une fois l'importance pour ces jeunes-là faire un peu d'introspection, réfléchir à leur avenir, avancer en attendant. Puis ça, c'est un peu un message qu'on adresse à tous les jeunes puis aux parents. C'est très difficile pour tout le monde, mais il faut pas perdre la chance de prendre un pas vers l'avant puis de faire du progrès dans notre planification, même si on peut pas pratiquer notre sport. Alors, on pense au tennis. Les jeunes ont des raquettes dans les mains vers l'âge de 5-6 ans. Un des objectifs de Tennis Canada, c'est de faire en sorte que de plus en plus de jeunes prennent une raquette de tennis, Paul, au lieu d'un bâton d'hockey. Littéralement. Les sports sont toujours en compétition l'un envers l'autre pour aller se chercher des clients. Pas des clients pour une raison commerciale, des clients participants. Parce que c'est ça qui fait qu'on développe du talent. Si un jeune ne peut pas être bon dans tous les sports, mais si le jeune choisit un sport comme le tennis plutôt que de choisir un sport comme le football, ben le tennis va peut-être se développer un ou une athlète d'élite de plus. Fait que ça joue dans les parcs jusqu'à peu près l'âge de 12-13 ans. Dans les parcs en groupe, prends un cours de groupe, prends un cours privé. Le moment donné, c'est comme d'autres sports individuels comme le patinage artistique. On détecte un peu de talent, du potentiel. Le prof, l'entraîneur vient approcher les parents puis leur offre la chance de se perfectionner avec des cours privés. C'est la nature des choses, c'est une bonne idée. Et puis là, on participe peut-être à des petits tournois locaux puis éventuellement, ça peut mener à quelque chose de régional puis même national. On arrive avec l'âge d'à peu près 13-14 ans, on fait un programme sport-études à l'école secondaire, on développe notre talent encore plus, on adore le tennis, on est passionné, puis là, on commence à compétitionner de façon plus sérieuse et on gagne. Et là, on a l'occasion d'être dépisté, si on veut, par Tennis Canada. On participe à des tournois de Tennis Canada, des petits programmes juniors, et si on est vraiment élite à un niveau extraordinaire, ben, Tennis Canada peut nous envoyer dans un des trois centres régionaux. Toronto, Vancouver, Calgary. Et le centre national, qui est à Montréal, accueille l'extrême élite, les exceptionnels, qui les prennent en charge, les mettent dans des familles d'accueil. Ils prennent des cours sur place, ils mangent sur place, sont logés. Et ils ont accès aux meilleurs entraîneurs de tennis, à des préparateurs physiques, à tout ce qu'on parle d'une équipe de développement pour emmener le jeune au niveau professionnel. Il arrive à 17-18 ans, il gradue, si vous me permettez, entre guillemets, là, du Centre national de tennis. Puis là, ils ont le choix, Paul. Aller pro tout de suite, à l'âge de 17-18 ans. Je prends l'exemple de Leila Fernandez, qui a 17 ans, qui sort de Laval. Toute une joueuse qui sort des joueuses de premier niveau déjà dans sa première année de compétition. Ou on peut aller faire de la NCAA aux États-Unis, dans un programme de bourse d'études aux États-Unis, se perfectionner une ou deux années de plus avant de passer chez les professionnels.
Mais est-ce que ça veut dire qu'au tennis, puis on le remarque, là, comment je te dirais, à 17-18 ans, là, t'es déjà classé dans le sens... je regarde,
oui, avec des points accumulés.
Oui, mais c'est, donc des vedettes du tennis sont de plus en plus jeunes.
Oui, bien surtout chez les filles. Paul, rappelle-toi, Alain, Paul, vous allez vous en souvenir, là, Martina Hingis, ouais. Andrea Jaeger, Tracy Austin, des jeunes filles qui ont tous percé le circuit américain de la WTA à l'âge de 14, 15, 16 ans. Et elles ont gagné aussi. Les hommes, un peu plus tard, 17, 18, 19, on a vu Félix Auger-Aliassime, qui à l'âge de 18-19 était déjà parmi le top 30-40 au monde. Mais là, plus tu gagnes, plus tu accumules des points, plus ton classement augmente, plus tu peux participer à tous les tournois, plus tu évites les qualifications, puis tu joues dans les grands tournois, dans la braquette principale. Et là, ça devient payant. Il y a aussi l'option de faire des académies privées. Je le souligne, c'est pas une recommandation. En Floride, par exemple, Nick Bollettieri, un des entraîneurs les plus chevronnés de l'histoire, il y a des académies. Tu peux aller là, ça peut te coûter 75 000 $ US par année.
Okay.
Puis il n'y a pas plus de chances que tu vas en sortir. Le meilleur chemin passe encore par la NCAA.
Merci. Bon week-end, Ray.
Bon week-end,
on se retrouve lundi, 8h31 avec ça. La Métropolitaine, Marc.